On vous l'a annoncé déjà, demain samedi, il y aura une manifestation anti-troisième lien qui va se tramer. Et on sait que Québec solidaire va participer à cette manifestation-là, aussi en compagnie d'un regroupement des différents cégeps qui vont participer à la manifestation. Et pour en parler, nous recevons Sol Zanetti en studio, député de Jean Lesage. Monsieur Zanetti, bon matin.
Bon matin.
Alors, Monsieur Zanetti, avant toute chose, on va juste s'assurer de parler le même langage et de savoir de quoi on parle exactement. Demain, c'est une manifestation anti-troisième lien. Ouais. Québec solidaire, pour quelle raison précisément on est contre l'implantation du troisième lien à Québec?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la preuve n'a pas été faite que le troisième lien, ça va réduire la congestion à Québec. Nous, on trouve qu'il y a un problème de congestion et on comprend ça, on sent ce besoin-là dans la population de dire on veut régler ça. Mais la solution, c'est pas un troisième lien. Une des solutions beaucoup moins chères que ça, parce qu'on se le rappelle, le troisième lien, selon les chiffres des diverses études qui ont été compilé par la ville, ça coûterait entre 4 et 10 milliards de dollars de fonds publics selon le scénario emprunté. Alors même si c'était juste 4 milliards, là, c'est énormément de fonds publics pour une solution qui va, quelques années après, ramener la même congestion à Québec et peut-être même encore plus de voitures, contribuer à l'étalement urbain sur des terres agricoles, surtout si on le fait dans l'Est. Donc, bref, énormément d'argent public, ça va amplifier la congestion à Québec. Et puis, la preuve n'a pas été faite qu'il n'y a aucun avantage à ça, en fait. À part pour, mettons, le maire de Lévis, qui, lui, évidemment, est bien content de dire on va développer de façon immobilière, tu sais, de l'immobilier sur les terres agricoles parce qu'il va pouvoir aller récolter plus d'impôts fonciers.
Mais à part pour le maire de Lévis. On peut construire n'importe quoi sur des terres agricoles.
Bien sûr, effectivement, sauf qu'on voit qu'avec, tu sais, le dézonage, ça se fait, là. Il y a une certaine protection des terres agricoles, mais c'est toujours en danger. Quand on regarde, mettons, les terres des Sœurs de la Charité, dans le coin dans le nord de Mézeray, en tout cas dans la Jean Lesage, ben c'est on voit là encore qu'ils sont en train de vouloir dézoner parce que la municipalité dit on veut construire, on veut plus d'impôts fonciers, on veut développer là, on sait pas où mettre le monde, fait que ils sont en train de demander au ministère de dézoner encore, fait que c'est sûr que c'est ce qui va arriver si on facilite le transport à l'est de Québec entre les deux rives.
Et l'histoire a démontré qu'effectivement lorsqu'on ajoute des autoroutes, qu'on ajoute des ponts ou des voies, à cause de l'étalement urbain, ça amène une affluence de véhicules. Cependant, faut savoir que l'étalement urbain est contrôlé par les maires qui vont émettre des permis. Si on décide, par exemple, de mettre plusieurs permis de construction, là, je pense à Robert Bourassa, entre autres. On sait qu'il y a eu des permis pour des constructions de condos qui ont été donnés à Pelletée. Fait qu'effectivement, il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui sont allées dans cette région-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est prêt avec un problème de trafic. Cependant, ceux qui sont pour le troisième lien vont vous dire, oui, sauf que si les maires contrôlent le nombre de permis qu'on va donner, on va être capable de contrer l'étalement urbain et ainsi contrer l'affluence de trafic qu'on pourrait avoir dans quelques années.
C'est vrai, sauf que les maires vont avoir avantage à ce qui est du développement à cause de la façon dont la fiscalité municipale est faite. Parce que la fiscalité, les revenus des villes viennent de l'impôt foncier, ils ont avantage à ce que les terrains prennent de la valeur puis à ce qu'on développe le plus de terrains possible. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, l'affaire, c'est que l'argument de base, c'est qu'il y a personne qui a démontré qu'on avait besoin d'un troisième lien, puis il y a personne non plus qui a démontré que ça enlèverait la congestion. Quand on regarde les études là sur l'affluence sur les deux ponts, là, si on regarde le pont de Québec puis le pont La Porte, c'est beaucoup ça que les gens disent quand ils disent ça a pas de bon sens, ça prend du temps à traverser. Je les comprends, je suis d'accord, mais la solution c'est plus de transport en commun, puis c'est aussi refaire le spaghetti à la tête des ponts. Et ça coûterait bien moins cher de refaire de façon plus intelligente les entrées et les sorties d'autoroute que de refaire les ponts, parce qu'en ce moment ce qu'on calcule c'est que le pont La Porte puis Québec ensemble, dans une heure de pointe, là, ça peut faire passer 30 000 voitures. Puis en ce moment, il y en a 18 000 voitures qui passent. Fait qu'il y a encore pas mal de lousse sur le pont. Le problème, c'est avant le pont puis après le pont.
Et si on parle donc du transport en commun, parce que vous l'avez abordé, vous savez que, bon, les gens qui sont pour le troisième lien vont aussi vous dire, oui, mais c'est sur ce lien-là que va passer le système de transport en commun structurant et on a besoin de ce lien-là pour faire le lien avec la rive sud, finalement. Parce que si votre solution ne passe pas pour le troisième lien, pour relier les deux rives, ça passe inévitablement soit par le pont de Québec, soit par le pont Pierre-Laporte, ce qui voudrait inévitablement dire enlever une voie pour faire passer le transport en commun. Ouais. Est-ce que votre solution vient de là, justement, d'enlever une voie sur un de ces deux ponts-là pour faire passer le réseau de transport structurant?
Bien, c'est ça, je vais laisser la décision aux experts, évidemment. Là, nous autres, on n'est pas des urbanistes. On regarde ce que les urbanistes font puis les études spécialisées, mais si on faisait ça, ça améliorerait quand même le passage parce que sur une voie réservée, il passe pas mal plus de monde que dans une voie où il y a des fois du covoiturage, mais le plus souvent de l'auto solo, tu sais. Alors, moi, toutes les solutions qui vont améliorer la fluidité sur les ponts, à l'amont des ponts, ben, on va être pour ça. Puis si ça veut dire mettre une voie réservée au transport de tramway sur le pont, ben, faisons-le.
Un des arguments qui est amené par Québec solidaire, puis je sais que ça avait été amené par Catherine Dorion lors de la ou après les élections, c'était de dire, ben, moi, j'ai été élue dans un comté. Donc, Québec solidaire a été élue dans Taschereau et dans Jean-Lesage pour votre cas. Ça veut donc dire que les gens de Taschereau et de Jean-Lesage ne veulent pas de troisième lien, alors on a une légitimité pour lutter contre ça. Ça, pour moi, c'est un argument qui est aussi faux que de dire les autres comtés à Québec ont voté pour la CAQ, alors ça veut automatiquement dire qu'ils sont pour le troisième lien. Je pense que c'est un lien qui n'est pas faisable. Par contre, un lien qu'on peut faire directement, ce sont les sondages qui ont été faits directement sur le troisième lien et à Québec et à Lévis. À Lévis, c'était 90 % de la population qui est en faveur du troisième lien et à Québec, c'était 76 % si je ne me trompe pas, Vez, c'est ça?
Ouais.
Bon, pour moi, ça veut dire quand même que la ville de Québec souhaite avoir un troisième lien. Alors, pourquoi aller à l'encontre de la volonté populaire sur cet enjeu-là?
Bonne question. D'abord, c'est sûr que les élections ne se font pas sur un seul enjeu. Par contre, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a un très, très fort appui contre le troisième lien. C'est drôlement formé, mon affaire. Et, tu sais, cet été, il y a eu une manifestation pour le troisième lien, puis il y a eu à peu près 50 personnes. Puis là, nous, demain, selon les estimés Facebook, c'est difficile à dire, beaucoup d'intéressés, 3-4 000 intéressés, puis 500 présents. Bref, il faut avoir pas mal de monde, et je pense que ça montre quelque chose comme un appui populaire. Et aussi, l'affaire, c'est que il y a eu une grosse campagne pro-troisième lien depuis au moins 2 ans. Ça a commencé avec, je pense, anti-SRB, je me souviens plus la date exacte, mais... Et puis, il n'y a pas vraiment eu de campagne anti-troisième lien. Puis là, nous, c'est ce qu'on commence à faire et on gagne des appuis avec ça. Parce que les gens, ce qu'ils se sont fait dire souvent, c'est ça va améliorer, ça, on va voyager plus facilement entre les deux rives, ça va améliorer la circulation. Mais ça, c'est comme pas vrai. Fait que j'ai l'impression que plus on va montrer les études qui montrent que c'est pas la solution au problème que tout le monde vit, j'ai l'impression que le vent va virer de bord et puis que ça va faire une grosse différence.
Et pour vous, la solution, donc, est-ce que ça passe à 100% par le transport en commun? Parce qu'on sait que même le réseau de transport structurant tel qu'il est présenté, ça ne va pas chercher une grande portion de la population, en ce sens qu'il y a des gens qui habitent dans des régions à Québec qui n'auront pas nécessairement... que ça ne facilitera pas leur vie nécessairement de prendre le futur tramway. Alors, pour vous, la solution passe uniquement par le tramway ou le transport en commun?
Ça passe par refaire la tête des ponts, pour ce qui est des gens de Lévis. Ça passe par un meilleur transport en commun. Puis un meilleur transport en commun, là, c'est plus de gens qui vont utiliser le transport en commun et donc une meilleure fluidité pour les automobilistes à l'heure actuelle. Donc, ça va aider même les automobilistes, le transport en commun. Et je pense que les transports en commun, il faut l'étendre énormément, mais c'est toutes les solutions autres que l'auto solo. C'est aussi favoriser, par exemple, l'autopartage.
Le covoiturage.
Le covoiturage, l'autopartage avec des incitatifs. Et ça, c'est vraiment la voie de l'avenir parce que si on continue à juste fonctionner avec le modèle de l'auto solo. En plus, c'est pas agréable. T'sais. Mettons, là, moi, je suis venu en joguant ici ce matin parce que c'était plus rapide que dans... Ouais, excusez-moi, je suis un peu...
Non, pas
mais,
du tout.
Mais c'était plus rapide que de venir en auto puis de me stationner dans le trafic. Puis après ça, je vais retourner en autobus puis je vais prendre mes courriels. Fait que tu sais, je suis déjà en train de travailler puis je perds zéro temps. Fait que c'est une mesure de productivité. Puis aussi, je serais pas stressé parce que tu sais, tu penses à plein d'affaires, tu conduis, là, t'écoutes des pubs des fois. Puis là, mais là, je vais être juste en train de prendre mes courriels tranquille avec les gens dans l'autobus. Ça va être sympa.
Parmi ceux qui sont en désaccord avec vos positions sur le transport en commun ou encore les solutions à adopter avant de faire un troisième lien, ce qui revient souvent, c'est de dire « Moi, je peux pas lâcher ma voiture. J'ai des enfants à aller chercher à la garderie. Je peux pas prendre une voiture. » T'sais, pour moi, la voiture est le meilleur contexte dans ma vie puis la meilleure solution. Ils ont l'impression que vous faites beaucoup de choses pour gâcher leur vie d'avoir une voiture. Donc, de pas nécessairement vraiment résoudre le trafic ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vos intentions sont vraiment à alimenter un service de transport en commun et ne pas penser à ces gens-là?
Ben au contraire, parce que moi, mettons, j'ai une voiture, tu sais, puis je m'en sers là, quand que j'ai pas le choix. Tu sais, il faut que j'aille, mettons, je sais pas, moi, au Canadian Tire, là. Bon, excusez, je viens de faire une pub. Je peux pas faire des affaires de même.
C'est pas grave.
Non, mais tu sais, tu s'en vas à Quincaillerie, loin, à chercher des madriers. Les madriers, peut-être pas en voiture, mais en tout cas, je prends ta voiture des fois. Mais des fois, pour moi, c'est beaucoup plus pratique de prendre l'autobus parce que j'ai pas à me stationner. Ça prend moins de temps. C'est plus le fun. Je prends mes courriels. Et voilà. Fait que je pense que ce qui est intéressant, c'est de rendre le service de transport en commun plus accessible pour que les gens puissent faire les deux pour que ça soit mieux pour eux, pas juste pour le principe. Puis aussi, l'affaire, c'est que plus des gens font ça, font les deux, c'est-à-dire, ils ont un mode de transport, mettons, hybride, des fois l'auto solo quand c'est ça la meilleure solution, des fois l'autobus, ben plus ça rend la fluidité meilleure pour les gens qui sont obligés de prendre toujours l'auto à cause de là où ils habitent.
Mais ils ont vraiment l'impression que vous pensez pas à eux.
Ouais, ben c'est une illusion. On pense à eux. On est dans la même situation. Tu sais, moi, j'ai une auto, je l'utilise des fois, puis j'ai juste un mode, disons, complémentaire et hybride de transport, et c'est vraiment ça qui est, je pense, le plus confortable et le plus agréable.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui croient dur comme fer que Québec solidaire est pas seulement pro-transport en commun, ils sont anti-auto? Il y a beaucoup de gens qui pensent ça à la grandeur du Québec au complet, mais ici à Québec particulièrement. Québec solidaire, pour eux, c'est des gens qui sont anti-auto. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Ben nous, on est anti-auto-solo dans les centres-villes urbains denses dans lesquels il peut y avoir du transport en commun. Mais on l'a présenté en campagne électorale. T'sais, on avait un plan de transition pour faciliter l'accès à des voitures électriques partout sur le territoire. Puis clairement, nous autres, t'sais, pour les gens qui habitent à Baie-Comeau, là, on sait bien qu'il n'y aura pas la densité suffisante à court terme pour avoir du transport en commun efficace. Alors nous, ce qu'on disait, c'est pour les gens qui sont dans un contexte où le transport en commun n'est pas évident, n'est pas prévu, t'sais, n'est pas facile à court terme, mais on va faciliter le fait qu'ils acquièrent des autos qui sont électriques en donnant des subventions plus grandes pour ceux qui habitent en région. Donc, on a une vision du transport qui est vraiment très adaptée à la réalité de tout le monde au Québec. Puis, c'est sûr que l'auto solo au centre-ville de Montréal ou au centre-ville de Québec, on trouve que c'est pas une solution qui est économique, pas une solution qui est pratique même pour les gens. Alors, on veut que les gens aient des alternatives à ça, donc en créer pour qu'ils puissent faire les changements plus agréables pour eux.
Il y a des objectifs au sein du gouvernement, mais en fait, c'était le cas au sein du gouvernement libéral, là, ça reste à voir pour la CAQ, mais d'éventuellement, en fait, éliminer toutes les voitures à essence pour tomber à 100% avec un parc automobile électrique ici au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? Est-ce que c'est réaliste, selon vous, qu'on en vienne dans un avenir assez rapproché à tous abandonner la voiture à essence pour prendre la voiture électrique dans le contexte où, présentement, les modèles de voitures électriques sont assez limités? Ouais. Le kilométrage qu'on peut faire avec les voitures électriques, c'est assez limité, sauf si on va dans les modèles plus luxueux comme la Tesla. Alors, pour l'instant, à l'heure où on se parle, c'est inaccessible pour l'écrasante majorité de la population. Québec solidaire, c'est quoi sa position pour ça?
Ben, nous, il faut qu'on le voie à long terme. Il y a déjà plusieurs pays qui prévoient là, d'interdire la vente de véhicules à essence d'ici 2025, d'ici 2030. Nous, ce qu'on a proposé aux élections, c'est un plan d'ici 2050. Alors, d'ici 2050, c'est dans 32 ans, c'est très à long terme, c'est graduel. On ne veut pas aller plus vite que le développement du marché des autos électriques. On ne veut pas aller plus vite que la capacité des gens de s'adapter. Puis, on veut aider financièrement les gens à s'adapter à ça. Mais il faut éventuellement qu'on aille à ça parce que en 2050, là, ça va... Je veux dire, si on imaginez le coût du pétrole en 2050, ça va devenir impraticable économiquement de continuer à faire ça. Alors, c'est pour ça que les pays qui vont s'adapter, plus on va s'adapter rapidement à ça, mais moins ça va coûter cher au monde, plus ça va être abordable.
À condition que l'option soit abordable.
Ah, ça, c'est évident. Mais c'est évident.
Actuellement, elle l'est pas, là.
Ben, actuellement, vous voyez, en 2019, Volvo a décidé d'arrêter de produire des véhicules à combustion interne. Fait que de plus en plus, là, l'offre, puis il y en a d'autres que c'est pas 2019, c'est 2022. Il y a
Ça me donne pas d'argent pour acheter une voiture électrique.
Ah, mais je comprends. Mais nous, on prévoit les deux. C'est que l'idée, là, c'est qu'en 2030, là, l'offre de, tu sais, dans 12 ans, là, l'offre d'auto électrique, à la fois en termes de distance, d'abordabilité et tout ça, ça va être complètement différent de maintenant, là. Ça va être complètement différent. Et nous, ce qu'on prévoyait d'une part, c'est de cheminer vers ça, mais aussi d'avoir des programmes d'investissement financier pour rendre ça accessible. Et quand je dis accessible, c'est pas les crédits qu'il y a aujourd'hui, là, que ça vous donne 8 000 sur une auto à 45 000. Je parle d'une vraie accessibilité qui est similaire actuellement à ce qui se fait dans l'auto à combustion interne.
Disons que ça va coûter assez cher, par exemple, si on se met à faire ces mesures-là.
Ce qui va coûter plus cher, c'est si on fait rien, puis si on se ramasse en 2050 avec du gaz à 3 piastres le litre.
Il y en a qui disent que dans 10 ans, la voiture électrique va être passée date. Elle va être surpassée par la voiture à l'hydrogène ou quelque chose comme ça. Surtout que la voiture électrique est quasiment aussi polluante à fabriquer à cause des piles.
Ben au Québec, c'est différent. C'est sûr que il n'y a pas de solution technologique parfaite. L'auto électrique au Québec, c'est intéressant parce que notre production d'électricité est propre. Ben en tout cas relativement propre, elle produit peu de GES. Mais c'est sûr que pour la production des piles, il faut trouver aussi une façon de recycler davantage de lithium. Au Québec, on a beaucoup de lithium, mais il faut trouver une façon de le recycler. Il n'y a pas de solution parfaite, mais c'est une solution qui est en ce moment dans le contexte québécois infiniment meilleure, économiquement et environnementalement que la combustion interne.
Je vais revenir sur la manifestation pour le troisième lien. Oui. Demain, il y a eu des propos de Gabriel Nadeau-Dubois cette semaine qui ont fait sourciller plusieurs de nos auditeurs, entre autres, qui a dit que le troisième lien allait devenir un enjeu national.
Ouais.
On sait que le troisième lien, s'il se réalise, c'est effectivement des fonds publics qui vont être payés par l'ensemble des Québécois, même de l'ensemble des Canadiens, parce qu'il va y avoir une portion du fédéral aussi avec ça. Et tu as des gens qui étaient un petit peu choqués de ça parce qu'ils disent le toit du stade olympique aussi a été payé par l'ensemble des Québécois, puis on s'en est pas mêlé. Le REM à Montréal, le pont Champlain. Il y a un paquet de projets qui se sont faits dans la région de Montréal qui ne nous concernaient pas, nous, et on ne s'est pas levé en disant ça coûte trop cher, on n'en veut pas de ces projets-là. Alors, pourquoi Québec solidaire ferait du troisième lien un enjeu national alors que ça concerne pas vraiment les gens les gens, disons, de l'ouest de la province, là, de la région de Montréal, et qui veulent juste venir nous mettre des bâtons dans les roues, finalement?
Ben, on aurait peut-être dû se lever. On aurait peut-être dû se lever sur le toit du stade olympique, puis sur le REM, puis les dépenses là-dessus. On paye pour. Moi, je trouve ça légitime. Au-delà de la question de on paye pour, qui est un excellent argument, tu sais, on paye pour. Si c'était juste un projet de la Ville de Québec qui finance ça, même les impôts fonciers, c'est de nos affaires, puis mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mais une ville, tu sais, la Ville de Québec a un budget de quoi? Entre 1 et 2 milliards par année. Ça, c'est un projet de 4 à 10 milliards. Fait que c'est évidemment que les gouvernements supérieurs vont, tu sais, de paliers supérieurs vont intervenir. Mais l'affaire, c'est que, c'est aussi une vision du transport. T'sais, le troisième lien, c'est comme le symbole d'un projet autoroutier dont il n'y a aucune preuve scientifique qui s'améliore la congestion, qui engouffre des fonds publics, puis qui va contre, je pense, évidemment l'environnement, puis une saine gestion des finances publiques.
Vous dites on paye pour, justement, on va payer pour un nouveau pont à l'île d'Orléans.
Ouais.
Là, les discussions actuellement, c'est peut-être de faire une pierre deux coups, de prolonger le nouveau pont de l'île d'Orléans pour en faire justement ce fameux troisième lien. Avec ce pont-là, que les dépenses vont déjà être octroyées. Vous en pensez quoi de ça? Ça pourrait pas être une bonne solution?
Bien, c'est intéressant. Je veux dire, le pont de l'Île-d'Orléans, il faut le refaire parce que c'est le seul lien. Il n'y a pas le choix. Il y a une nécessité au pont de l'Île-d'Orléans, clair et net. Puis en plus, c'est un pont qui coûte pas si cher parce que c'est pas un pont dans lequel les bateaux, tu sais, en dessous duquel les bateaux doivent passer. C'est ça qui coûte cher. Quand on regarde le pont Champlain, là, ce qui a fait que le pont Champlain a coûté cher à Montréal, c'est le fait qu'on est obligé de le faire assez haut pour que les bateaux passent en dessous puis qu'ils se rendent jusqu'à Toronto puis jusqu'à Thunder Bay. C'est ça l'affaire qui coûte cher avec le troisième lien. Puis évidemment qu'on fera pas un petit deux voies là comme l'île d'Orléans.
Non.
Là, ça va être un gros 4 à 6 voies, tu sais, pour que ça vaille la peine, j'imagine. Alors ça, c'est vraiment coûteux. Puis en plus, c'est des eaux profondes. Tu sais, les gens, ils parlent des fois du pont de la Confédération en disant, regarde, ça a pas coûté si cher, ça fait 13 kilomètres. Ouais, c'est parce que c'est pas très profond d'une part. Puis en plus, ils l'ont pas fait à une hauteur que les bateaux doivent passer en dessous. Là,
non,
c'est quasiment juste une autoroute sur pilotis.
Donc, j'ai un problème aussi avec le fait de comparer deux projets qui sont, somme toute, très, très différents au niveau de plusieurs normes.
Éloignés dans le temps.
Puis au niveau. Fait que ça, c'est certain. Par contre, de dire qu'on peut peut-être sauver de l'argent à certains endroits puis qu'on peut minimiser les impacts, je pense que ce sont les études qui doivent faire le travail et démontrer. Mais Québec solidaire, on a l'impression que vous êtes même contre le bureau de projet. Mm-hmm. On a l'impression que vous êtes contre même le fait d'aller voir quels pourraient être les impacts.
C'est parce que des études comme ça en Amérique du Nord, dans des contextes similaires là, sur des projets autoroutiers en général, il s'en est fait énormément, puis la conclusion va toujours à la même affaire. C'est pour ça qu'on se dit, tu sais, on sait qu'est-ce qui va se passer, là. Au Texas, ils ont fait une autoroute, à un moment donné, la Katy Freeway, puis ils l'ont élargie jusqu'à 26 voies. Puis 7 ans après, ils se sont trouvés avec le même niveau de congestion qu'avant. Pourquoi? Ben, les gens se sont dit, hey, ça circule bien, on va aller s'installer plus loin. Puis là, ben, ils sont revenus au même niveau. Fait que nous, on se fie sur les études qui disent toute la même affaire. Puis en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que, c'est pas intéressant, c'est grave, mais M. Bonnardel, le ministre des Transports, il a dit cette semaine, questionné par Mme Richer, là, de la presse, il a dit, elle lui a demandé est-ce qu'il y a une preuve scientifique que la congestion serait réglée par le troisième lien, puis il dit, c'est ça à quoi va servir le bureau de projet. Fait que là, le bureau de projet, dans le fond, d'une part, il nous dit, c'est sûr qu'on le construit, c'est sûr qu'on le fait à l'Est, on n'a aucune preuve que c'est nécessaire puis que ça va améliorer les choses, mais on va vous le démontrer dans les 4 prochaines années avec le bureau de projet payé par des fonds publics, pendant que toutes les autres études en Amérique du Nord disent le contraire.
Dernière question pour vous. Effectivement, ça peut sembler peut-être, oui, je suis d'accord, mais il va avoir des preuves, c'est sûr, à faire du côté de la Coalition Avenir Québec là-dedans. Par contre, je pense que Québec solidaire, de même que les étudiants, les cégepiens qui veulent manifester, ont le droit de le faire. Si on est en démocratie, si vous voulez manifester, vous avez en amplement le droit. Par contre, moi, il y a une chose qui me dérange dans le fait que ça ait lieu demain. Demain, à l'Assemblée nationale, il y a une chapelle ardente pour Bernard Landry, l'ancien premier ministre du Québec qui est décédé cette semaine. Et je sais que votre manifestation était prévue depuis un certain temps. Bernard Landry, son décès a lieu cette semaine. Alors, c'est sûr que la date s'est ajoutée après la vôtre. Par contre, pour moi, toute l'attention demain à l'Assemblée nationale devrait être réservée à Bernard Landry. Il me semble que vous auriez pu changer votre date pour la manifestation.
Bien évidemment, moi, je n'organise pas cette manifestation-là, Québec solidaire non plus. Cela dit, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de symboliquement très beau à faire ça en même temps. D'une part, évidemment, les gens qui vont être là vont être très respectueux de la façon dont, tu sais, c'est une manifestation familiale pour l'environnement. Là, c'est assez pacifique et puis le fun, là, puis joyeux habituellement. Puis c'est pas non plus une marche, là, ça reste devant l'Assemblée, à ma connaissance. Et moi, je vais aller évidemment à la Chapelle Ardente très tôt, puis après ça, je vais aller à la manifestation. Et M. Landry, c'est quelqu'un qui était pour le bien collectif, et c'est quelqu'un qui était sensible aussi à la question de l'environnement, des changements climatiques, puis aussi à la question de la saine gestion des fonds publics.
Mais il s'est jamais prononcé sur le troisième lien.
Non, ben c'est sûr, ben là, c'est parce qu'il se prononce, c'est récent, ça, puis dans les dernières années, il se prononçait moins sur ces choses-là.
Mais on peut pas faire de raccourcis entre sa position
sur le troisième
lien.
Non, bien sûr, je prétends pas qu'il aurait été, moi, mettons, si j'avais à parier, je dirais qu'il aurait été contre, mais,
on le saura pas.
Sauf que c'est quelqu'un qui était très militant. Même après avoir été ministre, premier ministre, super ministre, il allait dans des rassemblements militants. Et je trouve que c'est un bel hommage de dire que le jour de sa chapelle ardente, il va y avoir des gens qui vont militer pour l'avenir du Québec, pour le bien commun, devant l'Assemblée nationale, de façon pacifique et sereine. Et moi, je trouve que c'est un beau symbole.
Mais ça va bien se passer demain? Vous assurez que ça va se faire de façon pacifique et qu'il n'y aura pas de débordement?
Ben, comme je sais. Je suis pas le
chef.
Je suis pas le chef, le majordome de l'affaire, mais si j'avais à parier, je dirais que oui.
Parfait. Donc, ça va avoir lieu demain, manifestation contre le troisième lien. Québec solidaire sera présent, de même qu'une association de plusieurs étudiants de différents cégeps de la région. Merci beaucoup de vous être déplacé en studio ce matin, M. Sol Zanetti, député de Jean-Lesage.
C'est un grand plaisir. Merci.
Merci beaucoup.